France Culture, les matins du samedi, Quentin l'a fait.
C'est un livre qui vient de paraître aux éditions Gallimard, fruit d'une réflexion collective sur les mutations de notre époque, sur les prismes nécessaires pour tenter de les penser, de les analyser, d'en rendre compte. Cet ouvrage, il s'intitule « Portrait d'un monde cassé, l'Europe dans l'année des grandes élections ». Imaginé par la revue Le Grand Continent, il a été conçu sous la direction de Giuliano da Empoli avec des contributions diverses, nombreuses, passionnantes. Alors pour en parler, pour parler de notre continent fracturé, de cette Europe à recoudre, et alors que la campagne pour les élections qui se dérouleront entre les 6 et 9 juin prochains s'accélère. Je reçois ce matin trois invités. Gilles Gressani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de cette revue, donc Le Grand Continent. À vos côtés, Arantxa González, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doyenne de l'École d'affaires internationales de Sciences Po, ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères. Et à vos côtés, encore Florian Louis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien membre de la revue Le Grand Continent et je voudrais peut-être commencer cette discussion avec un texte central de ce livre, un texte signé Josep Borrell, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Il est également vice-président de la Commission européenne. Et Josep Borrell dresse le constat d'une Europe menacée, d'une Europe en danger. À quel point, Gilles Gressani, partagez-vous ce constat-là ?
Et déjà, c'était important pour nous de publier ce point de vue parce que le chef de la diplomatie européenne a une vision, une vue qui mérite d'être connue et étudiée en France, dans les différents pays européens. Par ailleurs, je trouve que ce texte est particulièrement pertinent parce que quand il essaye d'étudier la position de l'Europe, il fait un geste, à mon avis, aujourd'hui radicalement essentiel, c'est qu'il ne regarde pas uniquement l'axe horizontal, c'est donc au fond l'axe qui réunit Washington et Pékin, la rivalité sino-américaine, et vu d'Europe, la question essentielle évidemment de la guerre en Ukraine, et donc effectivement tout ce qui est en train de se passer avec le flanc est de l'Europe et du continent, mais il essaye de croiser cette dynamique aussi avec un axe vertical. L'axe vertical, évidemment, aujourd'hui, il devient très visible à cause depuis le 7 octobre. Mais c'est peut-être un des impensés de la construction européenne des dernières années. C'est au fond de se dire quelque part que la transition géopolitique européenne pourra se faire uniquement et simplement en s'endossant à des structures qui existent déjà et qui nous portent dans cet axe-là. Et au fond, c'est un peu la question. Est-ce que c'est possible pour l'Union européenne et pour l'Europe d'exister si on est uniquement sur la rivalité sud-américaine et sur la guerre en Ukraine? Ou est-ce qu'il ne faut pas essayer de trouver la manière aussi géographiquement de se situer? Donc pour cela, de croiser ces deux axes, de se retrouver effectivement à la fois dans un dialogue avec qui nous amène à réfléchir à la question de la Méditerranée, de l'Afrique et plus généralement des Suds.
L'originalité sans doute aussi de ce texte, Florian Louis, c'est qu'il croise les conflits. Ce n'est pas seulement le conflit qui se déroule présentement en Ukraine qui menace hautement l'Europe et l'Union européenne, c'est aussi ce qui est en train de se dérouler au Proche-Orient.
Oui, effectivement, dans son texte, il s'appuie sur cette notion d'entre-deux-guerres qu'il revisite, une notion bien connue, mais qui est connue pour nous chronologiquement, l'entre-deux-guerres mondiales. Mais là, il nous montre qu'aujourd'hui, l'Europe est aussi entre-deux-guerres, mais pas forcément dans un sens chronologique, du moins espérons-le, mais dans un sens bien présent et géographique, entre effectivement une guerre en Ukraine et une guerre au Proche-Orient, qui toutes les deux lui posent des problèmes à la fois singuliers et différents, et en même temps communs, puisque par exemple, les positionnements de puissances comme la Russie, comme la Chine, sont largement interagissantes, interactives, sur ces deux conflits. Et donc effectivement, il nous invite à prendre conscience finalement de la fragilité, de la complexité de la position du continent européen, et c'est pour ça qu'effectivement il ouvre bien ce volume. Et d'ailleurs, c'est presque intéressant, parce que le volume se conclut sur un texte de Javier Cercas, qui a cette phrase très belle, à un moment il dit le sport européen par excellence, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le football, c'est la guerre. Et effectivement, on commence par l'entre-deux-guerres et on finit par rappeler que, précisément, la construction européenne et le défi auquel on est confronté, c'est de chasser ces vieux démons de la guerre qui reviennent perpétuellement, soit depuis le centre même de l'Europe, soit depuis précisément, ses périphéries, et c'est ce que rappelle Josep Borrell.
Et dans le même temps, Arantxa González, est-ce qu'il faut céder à ces tentations de dire que l'Europe est continuellement menacée, que l'Europe est continuellement mise en danger quand on regarde ce qui a été fait depuis le début de la guerre en Ukraine? L'Europe a résisté, l'Europe a fourni des armes, l'Europe a su aussi rester solidaire et unie. Est-ce que l'Europe ne sait pas également réagir face à la menace?
Absolument, et je crois que les messages de ces livres, c'est aussi l'idée d'une Union européenne qui a conçu un autre modèle que la guerre comme mode de fer. L'Union européenne a conçu une autre manière de gérer les relations internationales. Ça a pas mal marché entre les deux guerres. Et la question, c'est si dans un monde qui se brutalise, où les Américains s'isolent, où les Chinois montent en puissance, où il y a des velléités impérialistes de la part des vieux empires, que ce soit la Russie, que ce soit la Turquie ou d'autres, si l'Union européenne va savoir ajuster son modèle spécifique d'économie, de compétitivité, de démocratie et de solidarité, si elle va savoir et pouvoir, parce qu'il faut faire les deux, savoir et pouvoir, ajuster ce modèle à un monde qui se brutalise pour pouvoir garder cette spécificité qui est européenne. Donc, en gros, moi, quand je lis ces livres, je me dis, le destin européen est entre les mains des Européens. La question, c'est, est-ce que les Européens vont être capables de se saisir de cette opportunité ou ils vont mettre leur futur entre les mains des électeurs américains à la fin de cette année ou encore du Parti communiste chinois ? À nous de décider. C'est ça un peu le message que je reprends après cette analyse qui est une analyse sobre parce que la situation est sobre.
Je reviens avec vous, Gilles Gressani, sur ce texte de Josep Borrell. On a le sentiment, depuis le début de notre discussion, que la menace, celle qui vise l'Union européenne, elle viendrait uniquement de l'extérieur. Or, on voit bien que, depuis le début, il existe aussi une menace intérieure, ne serait-ce que quand on parle du Proche-Orient. Aujourd'hui, les sociétés européennes sont fracturées quant à ce conflit.
Alors ça, c'est une question effectivement absolument centrale, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, et on en parle de plus en plus, la transition géopolitique européenne est en cours. De plus en plus, on pense effectivement aux rivalités entre puissances, les États qui agissent, les grandes puissances. En réalité, c'est difficile d'imaginer une géopolitique sans avoir aussi le volet, à côté du volet externe, le volet interne. Et le volet interne, c'est ce qui fait aussi la stabilité des sociétés. Il y a une géographie politique européenne qui est assez remarquable, et d'ailleurs qui est étudiée dans le volume, notamment par Paul Magnette, qui est assez intéressante. En fait, si vous regardez aujourd'hui la géographie du vote à l'extrême droite en Europe, par exemple, vous voyez qu'il y a une corrélation assez forte dans certains territoires. Ce sont les territoires, au fond, qu'on retrouve dans les vieilles zones industrielles du nord de l'Europe. C'est la partie qui a voté pour le Brexit au Royaume-Uni. C'est la partie du nord de la France. C'est une partie de la Wallonie, une partie de l'Allemagne. Et qui, en fait, sont caractérisés parce que Paul Magnette, aussi dans l'ouvrage, définit comme le croissant fossile. En fait, c'est la zone dans laquelle est née la grande révolution industrielle. Donc, c'est une zone dont le paysage a été détruit, la nature a été détruite, où, en même temps, une force sociale s'est constituée. C'est un peu la Rust Belt de l'Europe, parce qu'en même temps, depuis une quarantaine d'années, c'est aussi la région dans laquelle on a eu de plus en plus une désindustrialisation. Donc, en fait, vous aviez pas simplement la révolution industrielle, vous avez aussi le contraire. En fait, vous avez détruit la nature, en même temps, vous avez aussi détruit les formes sociales, donc c'est un chômage structurel. Vous avez un problème qui, en fait, est territorial. Vous avez des régions, des zones dans lesquelles, en fait, vous avez très peu de perspectives, si ce n'est que de partir. Pourquoi partir ? C'est un des sujets, d'ailleurs, importants. Au fond, les Européens, c'est aussi des personnes qui ne sont pas forcément obligées de partir. On pense toujours à l'Europe comme les cosmopolites qui circulent, mais en fait, il y a aussi des Européens qui juste ont envie de rester quelque part. Et au fond, on voit bien qu'aujourd'hui, une partie de la fragilité de la construction européenne vient du fait qu'on a du mal à concevoir un aménagement du territoire, des politiques territoriales de développement qui, en fait, ciblent en particulier ces régions-là. Si par un tour de magie, on pouvait extraire du continent cette zone d'ombre, en fait, on n'aurait presque plus de problèmes d'extrême droite en Europe. Et en fait, c'est un peu le paradoxe dans lequel nous sommes aujourd'hui. On parle beaucoup de politique industrielle. En fait, peut-être il faudrait parler beaucoup plus de politique d'aménagement du territoire et de politique industrielle territorialisée. C'est peut-être dans cette direction-là que va le dernier article qui travaille sur une autonomie stratégique pour les classes moyennes, en reprenant au fond un des concepts stratégiques de Biden pour essayer de les appliquer à l'Europe.
Arantxa González, ce qui vient d'être pointé là en creux, c'est peut-être aussi l'échec depuis plusieurs décennies des politiques de convergence européenne. Au fond, est-ce qu'on a réussi ou non, par la politique publique, à créer cette unité interne au sein du continent ?
Non, si je regarde l'Union européenne d'aujourd'hui, elle a fait converger des territoires qui étaient très, très, très éloignés. Si vous regardez l'Europe de l'Est, il y a 30 ans, vous la regardez aujourd'hui, si vous vous promenez en Pologne, en Hongrie ou en Slovénie, vous voyez une énorme différence. Vous voyez une montée des classes moyennes dans des pays où il n'y en avait pas. Simplement, simplement, aujourd'hui, nous avons deux nouvelles transitions qui arrivent et qui accélèrent et qui rend ces différences un peu plus visibles, qui est la climatique et la technologique, qui s'ajoutent à une convergence pas terminée. On n'avait pas encore conclu. Et donc, il faut maintenant gérer ces nouvelles formes de divergences qui apparaissent dans les paysages européens, qui sont le fruit de la transition fossile, qui sont aussi les fruits de la diversité de nos sociétés. C'est quelque chose qu'on sous-estime, mais nos sociétés, en réalité, sont beaucoup plus diverses que nos têtes. Nous pensons à des sociétés homogènes et ne le sont plus. Et donc, comment est-ce qu'on gère tout ça? Et à mon avis, il faudrait que dans cette discussion que nous avons, nous, Européens, pour retrouver une nouvelle forme de compétitivité, qu'on intègre la cohésion sociale comme un levier fondamental de la compétitivité européenne. Qu'on considère un contrat social européen, qui est l'image des marques de l'Union européenne, comme une avantage comparatif vis-à-vis des États-Unis beaucoup plus inégale, vis-à-vis la Chine, où il y a des tensions fortes à l'intérieur de la société, que nous, on invente des nouvelles manières de cohésion sociale comme levier de compétitivité de nos économies. En gros, qu'on renforce nos démocraties comme un antidote aussi face à un monde qui est déréglé.
Alors, ce que l'on est peut-être en train d'inventer depuis plusieurs années, depuis quelques années, Florian Louis, c'est cette transition géopolitique dans laquelle l'Europe, l'Union européenne, semble s'engager. Rappelez-nous peut-être de quoi il s'agit, son rapide historique, et surtout, est-ce qu'elle parvient à mener à bien cette transition géopolitique ?
Alors, comme toutes les grandes ambitions, évidemment, on ne les atteint jamais totalement, mais il y a deux faits, notamment avec l'accélérateur qu'a joué la guerre en Ukraine, des progrès incontestables sur cette voie-là. Alors, ce qu'on appelle, ce que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, avait appelé la Commission géopolitique, c'était en fait l'idée de développer une Europe qui joue dans la cour des grands en termes de puissance, en termes de hard power, comme on dit. Et il faut bien avoir à l'esprit que c'était vraiment une forme de renversement copernicien, puisque tout l'ADN, toute l'idée de la construction européenne, c'était justement plus jamais ça, c'est-à-dire plus jamais la guerre. Et donc, c'était de dire, nous allons rendre, entre guillemets, les armes entre Européens, plutôt que de nous faire la guerre, nous allons faire la paix. Et il y avait surtout cette idée que nous, Européens, faisant la paix, montrant que la paix amène le bonheur et la prospérité, nous le montrerons au reste du monde qui fera comme nous. Or, on s'est rendu compte que le reste du monde a plutôt vu cela comme une forme de démission. Tiens, les Européens veulent sortir de l'histoire. Très bien, on va prendre leur place, plutôt que « Ah, les Européens nous montrent une voie, on va la suivre ». Et donc, malheureusement, c'était une forme d'aveu d'échec. C'est cette volonté d'aller vers une Europe plus géopolitique, comme le disait von der Leyen, c'était de dire « Bon, ok, le monde ne nous a pas suivis sur la voie kantienne de la paix universelle, alors nous allons reprendre le vieux chemin que nous avions délaissé de la voie hobbésienne, de la guerre, entre guillemets, de tous contre tous ». Donc ça, c'était vraiment l'ambition, et c'est aussi une révolution copernicienne, mais c'est la même idée, mais que voilà, les Européens s'étaient construits, c'est la célèbre phrase de Jean Monnet, « Faire l'Europe, c'est faire la paix ». Aujourd'hui, on est quasiment à l'idée inverse. Faire l'Europe, c'est être en mesure de faire la guerre. Donc, voilà, c'est ça l'arrière-plan sur lequel on est. Et aujourd'hui, effectivement, alors on peut, une fois de plus, voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Il y a eu beaucoup de progrès, mais il faut bien voir que c'est effectivement, comme souvent en demeurant, mais les crises, notamment celle en Ukraine, qui nous y a poussé, parce que souvent on fait des grands discours, des grands projets, mais s'il n'y a pas comme ça l'épreuve du réel, ça met beaucoup de temps, voire ça ne se met jamais vraiment en œuvre. Donc là, on a beaucoup avancé. Il y a bien sûr encore beaucoup de choses à faire, mais de toute façon, on ne peut pas opérer justement un tel retournement, un tel renversement en quelques jours et ni même en quelques années.
Gilles Gressani, vous partagez ce constat tempéré. Est-ce que l'Europe puissance est en train de naître ou même de renaître ?
C'est clair que d'un point de vue du langage, il y a une évolution très nette. D'ailleurs, assez impressionnante. Quand on a commencé à travailler dans la revue Le Grand Continent, je me souviens, on avait créé une rubrique qui s'appelait Guerre, et on avait beaucoup de réactions très négatives à cette rubrique de la part des eurocrates, de la bulle européenne, qui disaient « Mais vous êtes fous, qu'est-ce que ça vient à faire, la rubrique
Guerre ?» C'est contraire au projet.
Voilà. Aujourd'hui, évidemment, ce positionnement, ce serait un peu bizarre. Personne ne pense plus ça, même c'est tout le contraire. Après, la difficulté, évidemment, et c'est toujours la difficulté des moments dans lesquels nous sommes, c'est qu'il faut essayer de changer le cap en le gardant. Au fond, la difficulté que nous avons, c'est que il faut changer beaucoup de choses, mais est-ce que changer beaucoup de choses n'implique pas aussi de renverser le projet lui-même? Et c'est ça la ligne de crête sur laquelle on marche. Il faut trouver la manière d'assurer une transition qui prenne en compte les différentes transformations profondes qui ont lieu, sans dénaturer profondément le projet, et le tout dans un contexte, on le voit bien, où au fond, peut-être, je ne sais pas si c'est une fragilité sociale, mais en tout cas une fragilité politique. C'est très très difficile aujourd'hui de proposer des transformations politiques qui puissent réellement s'appliquer à la société. On le voit très bien avec la question du Green Deal, du Pacte Vert. Au fond, il y a une convergence très large. C'est assez remarquable d'ailleurs, quand vous poser la question de est-ce que vous pensez qu'il y a un changement climatique, est-ce que vous pensez qu'il faut agir. Au fond, quelque part, vous avez autour de la table quelque chose qui va de Brigitte Bardot à Sandrine Rousseau, les animaux et le climat.
Comme si le sujet était tout à fait dépolitisé.
Voilà, comme si en fait tout le monde était d'accord. Mais dès que vous commencez par la suite à dire ben, donc du coup il faut, eh ben, là immédiatement vous vous retrouvez avec la fragilité sociale, avec le fait que changer les modes de vie et les styles de vie, ben, c'est très violent et ça implique effectivement de faire la politique. Et on voit très bien qu'en fait aujourd'hui, peut-être une des choses qu'on ne sait plus très bien faire, c'est comment faire pour faire de la politique, ou comment faire pour créer des formes de médiation, des transformations très profondes. Et donc, au fond, est-ce qu'on peut vraiment imaginer une transition géopolitique sans refaire de la politique à cette échelle-là? C'est un peu tout la question qui reste en suspens.
Sur cette Europe géopolitique, sur cette Europe puissance, je voudrais vous citer Céline Spector, qui fait paraître dans une autre revue, une autre belle revue, Esprit, un texte intitulé « De nouveaux tribuns, le moment machiavélien de l'Europe ». Je la cite. « Pourtant, le danger qui accompagne la transformation de l'Union en acteur géopolitique n'est pas mince. Le gain de puissance et d'efficacité pourrait s'opérer au détriment de la légitimité démocratique. » Arantxa González, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat d'abord? Est-ce que c'est une, peut-être quelque chose auquel il faut prêter attention?
Non, je crois que nous ne pouvons pas transformer l'Europe sans les citoyens. Nous sommes un espace démocratique. Et donc, tout changement doit commencer et se finir avec les citoyens. Et il faut en discuter et en débattre. Je trouve que le moment est très propice. D'ailleurs, nous allons avoir des élections européennes au mois de juin. Je crois que c'est un bon moment pour faire ces élections un espace des débats sur les transformations nécessaires de l'Union européenne. Alors, c'est vrai que la construction européenne était faire l'Europe pour faire la paix. Et je crois qu'aujourd'hui, ça serait plus juste de dire faire l'Europe pour pouvoir défendre la paix. Mais sachant que la paix, c'est pas quelque chose qu'aujourd'hui il faut donner comme acquis, il faut la défendre et il faut avoir la capacité de la défendre. Est-ce qu'il faut pour autant transformer l'Union européenne dans un projet de guerre? Non, je ne crois pas que l'Union européenne puisse être transformée dans un projet de guerre parce que les citoyens ne veulent pas ça. Mais il y a une deuxième partie de cette question pour l'Union européenne de demain, c'est que on est un projet d'intégration économique. On est un projet des forces économiques. Et nous ne serons pas un acteur géopolitique si nous ne sommes pas solides d'un point de vue économique. Donc, pendant qu'on comprend et qu'on agit pour être capable de défendre la paix, il faut aussi améliorer notre compétitivité économique. Et ça, c'est quelque chose que, pendant les 5 dernières années, à mon avis, on a un peu négligé et sur laquelle il va falloir revenir. Parce que finalement, si on n'a pas la puissance économique, on sera toujours un nain géopolitique.
Ce que pointe Céline Spector d'une façon assez claire, assez définitive également, c'est que pour que puisse naître cette Europe géopolitique, il faut sans doute un exécutif un peu plus fort. Et c'est là que la tension se crée entre la nécessité de cet exécutif fort, un exécutif capable de s'affirmer, et faire avec la nécessité de poursuivre le projet démocratique de l'Union européenne, Florian Louis.
Oui, bon, de toute façon, l'Union européenne reste dépendante, et c'est très bien comme ça, elle est faite pour ça, elle est faite comme cela, de la concordance des vues et des vœux de ses membres. Donc un exécutif fort, pourquoi pas, mais on ne va pas avoir un exécutif qui va imposer à un pays membre une politique étrangère dont il ne veut pas. Et je pense que c'est très bien. C'est dommage, évidemment, si on veut une Union européenne forte, mais il faut accepter que l'Union européenne, ce n'est pas un État et que ça n'est a priori pas près de l'être. Donc on est vers une logique de mise en commun, de mutualisation et pas vraiment de délégation ou d'abandon de souveraineté par les États à son profit. Et donc il faudra toujours cette diplomatie. Et il est clair qu'effectivement, il n'y aura de géopolitique, c'est-à-dire finalement de capacité de projection de puissance de l'Union européenne vers l'extérieur Il y en aura d'autant plus qu'il y en aura moins à l'intérieur. C'est-à-dire que moins il y aura de divisions entre les Européens, évidemment, plus il y aura cette capacité à aller de l'avant. Mais c'est effectivement l'une des complexités, mais c'est la force aussi et l'originalité de ce modèle qui fait que l'Union européenne n'est pas un État comme les autres, tout simplement parce que ce n'est pas un État. Et même si, effectivement, elle est amenée à rivaliser dans la cour, entre guillemets, des grands États, elle a cette spécificité qui est la sienne. Mais je pense que là, pour le coup, il faut en prendre son compte et essayer d'en faire une force plutôt qu'une faiblesse.
Le défi fondamental, évidemment, pour que l'Europe puisse entrer pleinement dans ces transitions, c'est la question des règles et du respect des règles. Sur le site Le Grand Continent, il y a cet article de Shane Valley qui met en lumière d'une manière assez magistrale, d'ailleurs je dois le dire, l'incapacité française à réduire ses déficits présents et pas seulement historiques. Comment faire avec ces règles, avec les règles existantes, Gilles Gressani? Est-ce qu'il faut négocier leur redéfinition ou est-ce qu'il faut tenter de jouer le jeu selon les règles édictées il y a maintenant près de 70 ans?
Mais déjà, il faut partir d'un présupposé il est important de rappeler en France, c'est qu'il y a très peu de règles européennes qui n'aient pas été définies par les Français. Il y a souvent ce jeu de rôle un peu bizarre qu'on retrouve dans la presse, dans le monde politique, qui consiste à dire l'Europe nous impose. En fait, sur des questions structurelles, je ne connais pas un dossier sur lequel, au fond, la position française n'ait pas été prise en compte. Peut-être pas à 100%, mais en tout cas d'une manière assez majoritaire. Donc ça, c'est le premier point. Donc effectivement, quelque part, c'est la question que pose Shane Valley dans l'article que vous retrouvez aujourd'hui à la Home. Il faut choisir sa crise. Est-ce que c'est une crise française? Est-ce que c'est une crise européenne? Et si c'est une crise européenne, il faut agir pour changer les règles.
Merci beaucoup à tous les trois. On va poursuivre cette discussion ensemble à partir de 8h20. On reviendra bien sûr sur l'actualité européenne, l'actualité des élections, avec le discours notamment du président de la République à la Sorbonne cette semaine. Avec vous trois, Gilles Gressani, Arantxa Gonzalez et Florian Louis.
France Culture, les matins du samedi. Quentin l'a fait.
Suite de notre discussion sur l'Europe et les élections européennes avec trois invités dans ce studio. Gilles Gressani, il est directeur du Grand Continent. Arantxa Gonzalez, doyenne de l'École d'affaires internationales de Sciences Po, ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères. Et Florian Louis, historien, membre de la revue Le Grand Continent. Et pour reprendre cet échange, je voudrais vous faire entendre une voix, celle du président de la République, qui prononçait jeudi dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne son grand discours sur l'Europe.
Nous devons être lucide sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir, et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Parce que c'est aujourd'hui que se joue la question de la paix et de la guerre sur notre continent, et de notre capacité à assurer notre sécurité ou pas. Parce que les grandes transformations, celle de la transition digitale, celle de l'intelligence artificielle, comme celle de l'environnement et de la décarbonation, se joue maintenant, et la réallocation des facteurs de production se joue maintenant. Et la question de savoir si l'Europe sera une puissance d'innovation, de recherche et de production se joue maintenant ou pas. Et parce que l'attaque contre les démocraties libérales, contre nos valeurs, contre, je le dis dans ce lieu de savoir, ce qui est le substrat même de la civilisation européenne, une certaine relation avec la liberté, la justice, le savoir, se joue maintenant ou pas. Oui, nous sommes au moment de bascule et notre Europe est mortelle, simplement cela dépend de nous.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. L'expression est répétée de nombreuses fois dans ce texte, dans ce discours. Arantxa Gonzalez, est-ce que ce registre-là, celui du tragique, est peut-être le plus efficace, le plus utile pour mobiliser à quelques jours, quelques semaines des élections?
Je crois que c'est lucide. Parce qu'il y a deux parties dans ce qui dit le président Macron. D'abord que l'Europe est mortelle. Et c'est vrai, si on regarde en termes historiques, cet expériment unique au monde qui s'appelle l'Union européenne est récent et est fragile. Et donc, il faut s'y préoccuper, il faut l'arroser, comme si c'était un jardin. Mais il dit une autre chose, et ça aussi c'est important de le répéter, c'est entre nos mains d'arroser ces jardins. C'est entre nos mains de faire en sorte que ces jardins qui est l'Union européenne puissent continuer à exister dans les futurs. Donc je crois qu'il y a ces doubles messages, lucidité dans les diagnostics, mais aussi c'est un entraînement, c'est à nous de décider ce que nous faisons avec l'Union européenne.
Double message, Florian Louis, et ambivalence dans le même temps, dans l'expression. On pense évidemment à la formule de Paul Valéry, on sait que nos civilisations sont mortelles. De quoi parle le président de la République lorsqu'il explique que notre Europe aujourd'hui est mortelle? Est-ce qu'il parle de la civilisation européenne ou de la construction politique?
C'est effectivement une ambiguïté qu'il ne lève pas et qui est, je pense, d'ailleurs une brèche assez facile à dans laquelle s'engouffrer pour des adversaires. C'est la grande question, c'est quel est ce nous, notre Europe? Parce qu'évidemment, un opposant populiste pourrait dire oui, votre Europe, l'Europe des technocrates, l'Europe des puissants, l'Europe des élites, mais c'est précisément ce que nous voulons, c'est la faire disparaître pour la remplacer par une autre. Donc, il y a cette grande question, effectivement, qui n'est pas levée dans cette formule, hein, de quel est ce nous qui parle lorsqu'il dit notre Europe est mortelle. Après, effectivement, donc, de fait, la question peut être posée à plusieurs niveaux, mais comme Arantxa vient très bien de le dire, hein, la construction institutionnelle qu'est l'Union européenne, elle est effectivement fragile, elle peut s'effondrer de tout instant, et je pense que effectivement la bonne question à se poser, c'est vaut-il mieux rien que cela? Et donc effectivement l'Union européenne est forcément quelque chose de très imparfait, mais je pense personnellement que c'est plus quelque chose qu'il faut chercher à améliorer de l'intérieur plutôt qu'à tout déconstruire pour espérer ensuite reconstruire. C'est toujours assez facile, hein, finalement, de détruire ce qui est en place. C'est beaucoup plus compliqué de construire. Et c'est précisément parce que c'est plus compliqué de construire que de détruire que ce qui est construit est forcément imparfait. Mais je pense effectivement que c'est dans ce sens-là qu'il fallait entendre son message. Mais la manière dont il l'a formulé peut être un peu ambiguë, même si la fin du discours où il insiste sur une Europe humaniste montre bien de quelle Europe il veut parler. C'est-à-dire, effectivement, du projet des pères fondateurs. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien sa crainte. La crainte, c'est que ce qui a été construit dans un certain esprit devient un instrument aux mains de personnes qui voudraient s'en servir pour lui insuffler un autre esprit, plus nationaliste, plus belliqueux, plus je ne sais quoi encore.
Je voudrais vous prononcer un autre discours cette fois-ci, un autre extrait prononcé, celui-ci à Strasbourg mercredi dernier. Notre agenda n'a qu'un but, faire enfin émerger une puissance écologique européenne sans laquelle nous disparaîtrons de l'histoire. Ce sont les mots, là, Gilles Gressani, de Raphaël Glucksmann. Est-ce que là encore, ce registre apocalyptique pointe une réalité concrète? L'Europe peut mourir effectivement, ou c'est encore une façon de mobiliser l'électorat?
Je pense que c'est quelque chose qui est très en phase, la manière dans laquelle, en fait, aujourd'hui, tout le monde, de façon assez individuelle et personnelle, perçoit la vie. En fait, le monde cassé est une chose qui, je pense, et d'ailleurs c'est assez intéressant, vous ne nous avez pas posé la question de définir, parce qu'en fait, c'est pas nécessaire de définir le monde cassé. On a tous un monde cassé, et on le voit très bien, et au fond, pour aller un peu plus loin, et c'est pour reprendre aussi ce que Giuliano D'Empoli dit souvent, et qui signe l'introduction, au fond, chacun choisit son apocalypse aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un peu, aujourd'hui, faire la politique, essayer de créer un grand récit, c'est de trouver une apocalypse qui puisse rassembler plusieurs apocalypses individuelles dans une apocalypse générale, d'où effectivement cette mortalité qui est prononcée et qui parle un peu partout. Maintenant, d'un point de vue plus politique, je pense qu'il y a un sujet qui est assez important dans cette évocation de la mortalité de l'Europe, mais qui n'a pas été peut-être analysé d'une façon assez pertinente ou assez profonde aujourd'hui par le débat autour de ce discours-là. Et c'est au fond le fait de dire que le paradoxe dans lequel nous sommes, c'est d'ailleurs ce que le président appelle la ruse de l'histoire, c'est qu'en réalité, et c'est un peu la chose nouvelle de la configuration européenne aujourd'hui, c'est que on était habitué à voir au fond une structuration de personnes qui étaient pro-européens et des gens qui étaient contre l'Europe, des gens qui voulaient sortir de l'euro, qui voulaient sortir de l'Europe. Ce qui est tout à fait nouveau en 2024 par rapport à 2017 et même avant, c'est qu'en fait aujourd'hui il y a très peu de forces qui veulent vraiment sortir de l'Europe, qui veulent vraiment casser l'euro. Au fond, le parti du Frexit en France fait 2%, même en Italie, il fait 3%.
Même le Rassemblement National a abandonné cette rhétorique.
Et donc, c'est un peu la question, c'est qu'est-ce que ça signifie concrètement que des forces traditionnellement europhobes, en fait, rallient, au moins d'un point de vue rhétorique, cette construction. Et c'est là qu'il y a, je pense, un point assez intéressant, c'est d'ailleurs la partie qui est développée à toute fin du discours, au fond, de dire... qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui que plus personne ne veut détruire l'Europe? D'abord et avant tout, ça signifie que Et c'est toujours comme ça en politique, parce qu'en politique, on regarde toujours l'offre, mais il faut regarder d'abord la demande. Si l'offre évolue, on peut se dire que c'est sans doute la demande qui évolue. Et qu'est-ce qui évolue? Ben, au fond, malgré tout, une convergence profonde pour l'euro, pour la construction européenne, qui fait que, au fond, aujourd'hui, c'est pas majoritaire de proposer de tout casser. De l'autre côté, par contre, ça signifie aussi, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui de faire un débat pro-européen et de construire l'Europe? Quels sont les clivages sur lesquels on peut se refonder? Et c'est sans doute sur des thématiques qui sont effectivement liées à des biens communs européens, à de la construction d'une dette commune et d'une possibilité d'action commune à ce niveau-là. Et c'est là tout le paradoxe dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas impossible, et c'est ça vraiment la vraie ruse de la raison dans laquelle nous sommes, qu'une partie des nationalistes puisse se rallier. Au fond, quelque part, nous avons eu avec Bismarck les lois sociales, avec le premier président socialiste de la République, Mitterrand, le tournant de la rigueur. Est-ce que ce n'est pas totalement inimaginable que ce soit par les néo-nationalistes qu'on fasse une partie du moment et du saut hamiltonien?
Arantxa Gonzalez, comment vous comprenez-vous effectivement qu'une partie des partis libéraux, des partis d'extrême droite, que certains partis d'extrême gauche également, en tout cas les partis nationaux en général, aient abandonné cette rhétorique de sortie de l'Union européenne?
Mais parce qu'ils ont compris que les citoyens n'achètent pas cette offre. Les citoyens ne veulent pas sortir en Europe, les citoyens ne veulent pas sortir de l'Union européenne.
En Grande-Bretagne, les citoyens ont voté pour la sortie de l'Union européenne.
Et 5 ans après, si vous regardez ce qu'ils pensent, c'est que ça a été une foutaise, que c'était terrible, qu'ils ont moins de pouvoir d'achat, qu'ils n'arrivent pas à contrôler la migration, qu'ils n'ont pas récupéré du pouvoir. En réalité, qu'ils se sont enfoncés dans un trou. Et c'est ça qu'ils nous disent aujourd'hui. Donc, je crois qu'en Europe, ce choix est clair. Maintenant, comme vous dites, les problèmes auxquels nous faisons face, c'est des partis nationalistes qui ont transformé cette rhétorique de sortir de l'Union européenne par une autre rhétorique qui est de changer l'Union européenne de l'intérieur pour la renationaliser. Or, ce que nous savons, et ça, il faut l'expliquer et le débattre avec les citoyens, c'est que là où l'Union européenne est plus faible, et là où l'Union européenne est le moins intégrée. L'énergie, les marchés des capitaux, qui est la raison pour laquelle l'épargne européenne, qui est gigantesque, ne capitalise pas en Europe, elle part aux États-Unis et elle revient acheter des entreprises européennes pour le compte des Américains. Donc, est-ce que les débats et où nous ne sommes pas intégrés, nous ne sommes pas compétitifs? Alors, c'est là qu'il faut pousser ces débats. Les débats, l'expliquer, les confronter. C'est pourquoi j'ai trouvé très pertinent ces discours du président Macron à la Sorbonne, comme j'ai trouvé très utile les récents rapports faits par l'ancien premier ministre italien Enrico Letta. Il y a tout un mouvement d'explicité pour les citoyens européens où est le choix. Et laisser un citoyen qui est un citoyen éclairé et intelligent, capable de comprendre les enjeux, de prendre la décision dans les élections au mois de juin. Donc en gros, les problèmes des élections au mois de juin, les élections européennes, sera de décider si nous voulons être plus forts en étant plus souverains européens ou si nous voulons renationaliser, à quel point on sera plus faible. Il faut donner aux citoyens ce choix.
Florian Louis, je vous livre une autre citation du discours de Raphaël Glucksmann pour tirer ce fil. On est en train de faire renaître avec ces élections européennes en France le clivage gauche-droite qui n'a jamais disparu à l'échelle européenne. Fin de citation. Est-ce que ça correspond à une réalité?
Ah, c'est quand même plus compliqué que ça. Il suffit de regarder les votes au Parlement européen. On voit bien que sur certaines questions, et c'est une fois de plus, selon moi, tout à fait compréhensible et pas nécessairement problématique, l'appartenance nationale peut primer l'appartenance partisane. Donc, là, je pense que ce qu'il dit, c'est surtout à l'échelle, pour le coup, nationale française, où effectivement, il veut dire simplement le retour du Parti socialiste et d'une certaine gauche qui s'était effondrée. Mais je pense effectivement que, bien sûr, il y a, et c'est normal, c'est le principe de la politique, de l'affrontement, de la division idéologique, aussi bien à l'échelle nationale qu'européenne, mais la division, la polarisation droite-gauche ne me semble pas être la seule à l'œuvre à cette échelle-là. Et voilà.
Au cœur du président de la République, il y avait aussi la question fondamentale de l'identité européenne. Être européen, dit-il, ce n'est pas simplement habiter une terre de la Baltique, de la Méditerranée ou de l'Atlantique à la mer Noire. C'est défendre une certaine idée de l'homme qui place l'individu libre, rationnel et éclairé au-dessus de tout, a-t-il estimé. Est-ce que Gilles Gressani, cette vision de l'Europe, là encore, cette vision liée à l'identité européenne, est-ce qu'elle est capable de mobiliser ?
Alors, ce qui est intéressant dans cette définition de l'humanisme, qui est une définition d'ailleurs assez particulière, mais qui exprime assez bien, au fond, la doctrine profonde du libéralisme du Président de la République, au fond, c'est qu'il n'y a pas la société. Dans cette définition-là, en fait, on a beaucoup, mais on n'a pas la partie sociale qui est évidemment structurante aussi. Et c'est peut-être aussi une des perspectives dans lesquelles il s'agit de travailler dans les prochaines années. Parce que, en fait, on voit bien qu'une définition uniquement d'un individu libre, éclairé, émietté, en fait, on n'arrive pas à faire tout ce dont on a parlé au début d'émission. Les transformations face auxquelles on est impliquent effectivement de pouvoir travailler avec des groupes sociaux, avec des alliances, avec des formes aussi de conflictualisation.
À recréer du commun.
Oui, mais c'est pas un commun qui apparaît d'une manière magique en mettant ensemble des individus. C'est plutôt quelque chose qui se construit au fond par la construction de mouvements. Et c'est là que je crois qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'au fond cet individu un peu émietté est peut-être aussi en partie ce qui, d'un point de vue un peu symptomatique, exprime une forme de souffrance aujourd'hui. On le voit, c'est peut-être aussi l'individu qui n'a pas accès à des formes de socialisation plus larges. C'est au fond tout ce dont la chronique parlait, qui est un peu ce problème structurant, qu'on le voit bien aujourd'hui, du lien et de la possibilité de construire au fond de processus qui ne soient pas simplement liés à des préférences individuelles à un moment donné. Et c'est là le problème qu'on a, parce qu'au fond, qu'est-ce que peut faire du commun ? Quelle est la partie de récit qui peut faire du commun ? Quelles sont les choses qui peuvent relier plusieurs individus? Le foot, oui, la nourriture, sans doute. Mais on le voit bien, même ceux qui se prétendent nationalistes, en fait, n'ont pas, en réalité, trouvé aujourd'hui des solutions fortes. Si vous regardez le cas de Meloni en Italie, au fond, est-ce que c'est vraiment le catholicisme traditionnaliste que peut être proposé par une femme qui a eu un enfant hors mariage, qui n'est pas même mariée, qui vient de se séparer de son... Voilà, il y a un problème, en fait... assez radical du fait de ne peut-être, si on valorise trop l'individu, on n'arrive pas effectivement à créer le récit nécessaire pour faire le commun.
De récit, justement, on va parler ensemble, Florian Louis. On a beaucoup dit que l'Europe, l'Union européenne, manquait de récit pour avancer. Est-ce que ce discours-là constitue, le discours du président de la République, constitue, à votre avis, un récit? On a aussi entendu qu'il s'agissait parfois, peut-être même trop souvent, d'une somme de projets qui étaient difficiles à lier ensemble.
Bon, alors d'abord, il faut évidemment se défranciser le regard. Hein. C'est peut-être un récit pour les Français, à l'échelle de la France, mais je doute que dans l'ensemble de l'Union européenne et dans l'ensemble des territoires et des populations, le discours ait eu un écho immense. Par contre, c'est effectivement important, ça pose cette question, enfin que je soulève un peu sur le ton de l'ironie, la question justement de la diffusion de ces récits, de ces discours, et c'est là qu'une revue comme Le Grand Continent est importante. D'ailleurs, ce discours, il est publié sur le site du Grand Continent, et il est traduit dans plusieurs langues européennes sur le site du Grand Continent, précisément, c'est l'ambition de la revue, pour créer un débat à l'échelle pertinente, qui est bien celle de l'Union européenne, avec cette question du multilinguisme dont il faut faire une force et pas une faiblesse. Donc, c'est un élément d'un récit, mais évidemment, le récit, de toute façon, il se dessinera avant tout en vertu du résultat des élections qui viendront. Il faudra... C'est les Européens, c'est les citoyens, c'est les électeurs qui vont écrire ce récit tous ensemble, et le récit, on le découvrira sur nos écrans de télévision.
La campagne, c'est tout de même le grand moment du récit, c'est le moment où on doit...
C'est le moment de l'affrontement des récits, mais c'est le moment justement où s'affrontent des récits en partie contradictoires et les urnes précisément, et c'est très bien ainsi, pour construire le récit dont les Européens veulent, qui sera forcément un récit composite, un récit de compromis, parce qu'évidemment, et c'est normal, les Européens ne sont pas et ne seront jamais unanimes, mais c'est les élections qui vont trancher cela. Ce qui est important, justement, c'est d'alimenter ce débat avec des émissions comme on en fait ce matin, avec des publications comme celles dont on parle ce matin. Il faut effectivement... à la fois parler, faire parler de ces sujets qui peuvent paraître techniques, mais qui sont fondamentaux dans notre quotidien, et puis les vulgariser, les faire comprendre, parce que c'est vrai que les enjeux sont complexes.
Arantxa González, le président de la République, dans ce discours, a beaucoup parlé d'écologie, mais là encore d'une façon émiettée, sans en faire un bloc, sans utiliser cette matière pour tenter de tisser un récit. Est-ce que peut-être le discours écologique pourrait constituer ce trait commun, ce fondement commun pour faire avancer et le débat et le projet politique de l'Union ?
Et c'est très intéressant, Quentin, parce qu'il y a 5 ans, lors des dernières élections européennes, c'était cette idée d'une Europe qui ferait la décarbonation de l'Europe, mais qui porterait ses messages aussi au reste du monde, qui a été mobilisateur au point d'avoir 10 points d'augmentation dans la participation aux élections européennes, notamment des jeunes. Et je voudrais parler des jeunes, parce que les projets européens dans le futur nécessitent d'un apport de ces nouvelles générations, pas simplement des vieilles générations qui ont connu les pourquoi très durs, la sortie de la Deuxième Guerre mondiale comme raison d'être de cette Union européenne, mais des jeunes qui aujourd'hui porteraient ces projets européens dans diverses langues, avec diverses images, dans divers pays de l'Union européenne, mais avec des valeurs qui sont des valeurs communes. Et l'écologie est certainement un élément très mobilisateur, comme on l'a vu dans les dernières élections européennes. C'est en gros assez intéressant de voir que nous, parfois, en Europe, on a plus de difficultés à voir ce que nous avons en commun et qu'il suffit de sortir de l'Union européenne pour voir une Europe qui a beaucoup de choses en commun et qui est perçue en tant que telle par les autres pays.
J'étais alors, qu'avons-nous en commun ?
J'étais à Kiev il y a une semaine, à Kiev, qui est la capitale d'un pays en guerre et qui regarde vers l'Union européenne avec cet espoir d'un espace des libertés, des progrès économiques, des justices auxquelles ils veulent appartenir. Et peu importe, ils ont des voisins comme la Pologne, ils ont des voisins proches comme la Bulgarie ou la Roumanie, ils regardent l'Union européenne, l'Espagne un peu trop loin. Mais peu importe, ils voient dans cette Union européenne des 27 États membres très différents un espace avec des valeurs communes auxquelles ils veulent appartenir. Donc peut-être qu'il faudrait regarder un peu plus cette Europe avec les yeux de quelqu'un qui est à l'extérieur et qui voit dans cet espace, en gros, de l'espoir. C'est de ça qu'il faut, à mon avis, nourrir ces récits européens. Plus d'espoir.
Un mot du philosophe allemand Peter Sloterdijk qui donnait il y a quelques semaines sa leçon inaugurale au Collège de France, leçon inaugurale qui portait sur l'Europe, je le cite, « dans une partie du monde fortement compromise dans laquelle toute tentative de recommencement se verrait opposer les charges d'une histoire trop lourde. Dans une telle situation, celui qui se consacre à la mission de repenser l'Europe doit savoir qu'il s'agira de former des concepts pour une nouveauté politique et culturelle dont l'existence est placée sous des présages encore largement inconnus, des concepts pour un continent sans qualité. » Gilles Gressani, c'est ça qu'il nous manque fondamentalement aujourd'hui, ce sont des concepts et la façon nouvelle de penser notre continent.
Je pense qu'effectivement, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la mise en commun d'un débat à l'échelle continentale. En fait, en réalité, une des choses les plus impressionnantes, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui rassemblent quelqu'un qui se trouve à Varsovie, avec quelqu'un qui se trouve à Séville, quelqu'un qui se trouve à Paris, avec quelqu'un qui se trouve à Naples. Simplement, la chose un peu paradoxale, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez de lieux dans lesquels ceux-là peuvent se rencontrer. Et ça peut être ça, en fait, ce qui nous manque aujourd'hui. C'est de pouvoir avoir de la socialisation à cette échelle-là. Évidemment, c'est difficile, c'est compliqué. On essaye de le faire avec nos petits moyens, avec le grand continent. Mais je crois que c'est là que réside peut-être le point de bascule pour le projet qui nous attend.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce matin au micro de France Culture. Gilles Gressani, je rappelle que vous êtes directeur du Grand Continent, Arantxa González, doyenne de l'École d'Affaires Internationales de Sciences Po, ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères, et Florian Louis, historien, membre de la revue Le Grand Continent. Et je rappelle le titre de cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Gallimard, Pensé par le Grand Continent. Il s'intitule Portrait d'un monde cassé, l'Europe dans l'année des grandes élections.